Puisque la provocation, celle qu'on n'a pas dénoncée, ce fut de nous envoyer en réponse à nos questions vos hommes bien lunettés, bien casqués, bien boucliers, bien grenadés, bien soldés, nous nous sommes mis à crier. Parce que vous avez posté dans les cafés, dans les gares, des hommes aux allures bizarres pour ficher, pour arrêter les crivines, les Jesuas, au nom de je ne sais quelle loi, et beaucoup d'autres encore, nous avons crié plus fort. Ce n'était pas assez pour venir à bout de nous. Dans les facs, à la rentrée, vous frappez un nouveau coup. Face aux barbous, aux sportifs, face à ce dispositif, nous crions assis par terre, des Beaux-Arts jusqu'à Nanterre. Vous êtes reconnaissables, vous les flics du monde entier, les mêmes imperméables, la même mentalité. Mais nous sommes de Paris, de Prague, de Mexico, et de Berlin à Tokyo, des millions à vous crier.
Et salut.
Hello.
Et salut à tous, à tous nos milliers d'auditeurs présents.
Milliers de paires d'oreilles.
Voilà.
Et ben on reprend juste un bout d'émission parce qu'on avait envie de faire une émission sur les chants contestataires, les chansons contestataires.
Les chansons contestataires en Europe là.
Ouais, là c'est en Europe. On avait prévu de... le monde entier.
mais déjà vous allez voir,
on
ça va être long.
Beaucoup. Ouais, c'est un peu l'occasion de parler d'histoire de révolte, quoi. Voilà.
Oui, c'est ça, en fait, souvent ça va être des chansons qui nous donnent le prétexte de parler de certains mouvements, quoi. Parce que, bah, je sais pas, depuis le 17e jusqu'à nos jours, on a quoi ? On a des chansons espagnoles, des mouvements belges, des chansons irlandaises, italiennes, françaises.
Il y a pas mal de contestations qui sont passées... par aussi la musique, quoi, du coup, qui sont exprimés aussi à travers la musique, qui est quand même un bon moyen de faire passer des messages. Et du coup, voilà, on s'est dit que on a tiré un petit échantillon de plein de morceaux différents pour essayer d'illustrer tout ça. Voilà.
Et du coup, on va illustrer des mouvements qu'on a classés par ordre chronologique. Mais du coup, les chansons, évidemment, sont pas classés par ordre chronologique, mais les mouvements, oui. Enfin, peut-être, si on a bien bossé.
Ouais, à peu près, quoi.
À peu près.
Et ben, du coup, on va commencer avec la petite intro.
Ouais, on peut enchaîner par la chanson qui va parler des Diggers aussi.
Okay.
Et après je dirai un peu ce que c'est.
Allez, c'est parti.
Monsieur le Président,
depuis que t'as prononcé tes vœux, tu as l'esprit qui boit un peu.
Combien ça vaut, quel est le prix de te faire détester ainsi?
Monsieur le Président,
t'aurais mieux fait de rester chômeur.
C'est la flicaille des gens honnêtes, avec qui tu fais le beau aux sorties d'usine, l'air agrippant de Steve McQueen.
Dans les cafés, dans les gares, en plein mois de mai, la révolution entre les pavés.
Sur les routes de France, de Bretagne en Provence,
égare à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront.
Des anarchistes,
que la nitro comme la dynamite
dans la rue des bons enfants.
Monsieur le Président,
on nous attaque, on se défend. Désolé si c'est toi qui prends.
l'annonce des bombes.
Et maintenant il n'est plus là.
Même les flics de Paris, même les flics de Paris.
Une explosion fantastique, mais les pavés sont tous sanglants.
Et l'anarchie enfin va triompher.
You noble diggers all stand up now, stand up now. You noble diggers all stand up now. The wasteland to maintain, sing cavaliers by name. Your digging do disdain and your persons all defame. Stand up now, diggers all.
Your houses they pulled down.
Stand up now, stand up now. Your houses they pulled down. Stand up now.
Your
houses they pulled down to fright poor men in town. But the gentry must come down and the poor shall wear the crown. Stand up now, diggers all.
With spades and hoes and ploughs, stand up now, stand up now. With spades and hoes and ploughs, stand up now. Your freedom to uphold, sing cavaliers are bold. To kill you if they could, and rights from you withhold.
Stand up now, diggers all.
The gentry are all round. Stand up now, stand up now. The gentry are all round. Stand up now. The gentry are all round. On each side they are found. Their wisdom so profound to cheat us of the ground.
Stand up now, diggers all.
The lawyers they conjoin.
Stand up now, stand up now. The lawyers they conjoin. Stand up now. To arrest you they advise. Such fury they devise. But the devil in them lies and hath blinded both their eyes. Stand up now, diggers all.
The clergy they come in.
Stand up now, stand up now. The clergy they come in. Stand up now. The clergy they come in and say it is a sin that we should now begin our freedom for to win. Stand up now, diggers all.
The club is all their law. Stand up now, stand up now. The club is all their law. Stand up now. The club is all their law to keep poor folk in awe. But they no vision saw to maintain such a law. Stand up now, diggers all.
Against the hate and fear, stand up now, stand up now. Against the hate and fear, stand up now. The press have closed their eyes, they spread the tyrant's lies. They'll tell you with their cries who to love and to despise. Stand up now, diggers all.
Gérard Louis Stanley écrivait en 1652 dans La loi de liberté. C'est indéniablement affaire de justice que le peuple travailleur puisse bêcher, labourer et habiter sur les communes sans avoir à louer ou à payer une redevance à quiconque. Gérard Louis Stanley, il faisait partie de cette faction qui était appelée les diggers ou les bêcheux, parce qu'ils réclamaient de pouvoir bêcher sans avoir à payer de loyer à quiconque. En 1649, autour du 1er avril, ils ont occupé une église et les terres de la paroisse de Walton à St. George Hill. Donc ça, c'était dans un contexte aussi de la première révolution anglaise. Et Gérard Winstanley, avec William Everard et pas mal d'autres, ont occupé des terres, une église et des terres, et ont fondé les premières communes. c'était un peu les premiers squatteurs de l'histoire, les premières personnes qui réclamaient ou qui exigeaient ou qui le faisaient en acte d'occuper des terres et de les travailler. Surtout, je crois qu'ils avaient beaucoup, comme leur nom l'indique, quoi, vu qu'ils s'appelaient les diggers, ceux qui creusent, ceux qui bêchent, revendiquaient de travailler leurs terres sans avoir à le devoir à quiconque. Winstanley écrivait aussi « Lorsque l'humanité commença à acheter et à vendre, elle perdit son innocence. Et les hommes commencèrent alors à s'opprimer les uns les autres et à frauder leurs droits naturels. » Il rajoute dans un autre pamphlet, il a écrit une série de pamphlets en 1652, il rajoute « Une fois la terre redevenue trésor commun, il adviendra que nul n'osera chercher à dominer les autres. Nul n'osera tuer son prochain et ne désirera posséder davantage de terre que son voisin. » Tous les hommes se sont dressés pour conquérir la liberté, et ceux parmi vous qui appartiennent à l'espèce des riches ont peur de la reconnaître, car elle s'avance, vêtue des habits du rustre. La liberté, c'est l'homme résolu à mettre le monde à l'envers. Comment donc s'étonner que les ennemis l'assaillent ? Et effectivement, le mouvement va s'éteindre autour de 1650, lorsque les communes des diggers seront détruites. Mais cette phrase de mettre le monde à l'envers, je pense qu'elle a fait écho encore aujourd'hui. Y a une maison d'édition qui s'appelle Le Monde à l'envers, par exemple. Un bouquin qui s'appelle Le Monde à l'envers de Christopher Hill, qui explique un peu l'histoire des diggers. Dans la biblio, on peut aussi rajouter un article dans L'incendie millénariste de Fernando Navarra. Non, c'est pas Fernando. Merde. Bon, on s'en fout. Et aussi, on peut citer une brochure. Donc là, pour situer plus le contexte de la Révolution anglaise, une brochure qui s'appelle « Les radicaux urbains et paysans dans la Révolution anglaise » qu'on peut trouver sur infokiosque.net. Et enfin, il y a une autre chanson qui parle des diggers qui a été chantée par Billy Bragg, qui s'appelle « The World Turned Upside Down », le monde à l'envers. Et les diggers, 300 ans plus tard, ont donné leur nom à un collectif qui avait pour nom le San Francisco Mime Troupe, donc la troupe de mimes de San Francisco, qui va reprendre le nom des diggers à partir de 66. Parce qu'en 65, en fait, cette troupe de théâtre qui jouait dans la rue, je vais raconter une petite anecdote. La ville de San Francisco avait refusé qu'ils jouent une représentation de Il Candelaio de Giordano Bruno, et parce qu'elle était obscène, cette pièce. Et en fait, ils ont quand même maintenu le spectacle et invité pas mal de gens à les soutenir. Et la police était là, à regarder. Et pour interdire la représentation de cette pièce. Mais la troupe monte sur scène et annonce qu'elle joue, pour leur plus grand plaisir, une scène d'arrestation. Et donc, évidemment, vu qu'ils sont montés sur scène, ils se font arrêter et ça provoque un peu des troubles autour de cette arrestation. Donc ça, c'était la San Francisco Mime Troupe. Et après, ils s'appelleront... Enfin, il y aura une émanation d'eux et d'autres qui formeront le collectif des Diggers, qui, pendant le flower power des hippies, distribueront de la bouffe, occuperont des lieux pour faire les premiers free shops, les premiers magasins gratuits du monde, enfin, en tout cas, là, à l'époque. Et pour en savoir plus sur ces diggers-là, donc les diggers des années 60, et puis ils se gênaient pas pour critiquer les hippies en tant que fils des médias et de la consommation. Et justement, pour en savoir plus, on peut lire aussi deux livres qui sont parus à l'échappée. Les Diggers, Révolution et Contre-culture à San Francisco, de 1966 à 68. Et un livre de Emmett Grogan qui s'appelle Ringo Levio, Une vie jouée sans temps mort, qui est paru à l'échappée en 2015. Et bah voilà, je pense qu'on peut enchaîner avec une chanson qui parle d'un autre mouvement anglais, les Luddites.
Rhymes about bold Robin Hood, his feats I do little admire. I'll sing the achievements of General Ludd, now the hero of Nottinghamshire. Brave Ludd was to measures of violence unused, till his sufferings became so severe, that at last to defend his own interests he roused, and for the great fight did prepare. The guilty may fear, but no vengeance he aims at the honest man's life or estate. His wrath is entirely confined to white frames and to those that all prices abate. Those engines of mischief were sentenced to die by unanimous vote of the trade. And Ludd, who can all opposition defy, was the grand executioner made. And when in the work he destruction employs, himself to no method confines. By fire and by water he gets them destroyed, for the elements aid his designs. Whether guarded by soldiers along the highway, or closely secured in a room, he shivers them up by night and by day, and nothing can soften their doom. He may censure great Ludd's disrespect for the laws, who ne'er for a moment reflects that foul imposition alone was the cause which produced these unhappy effects. Let the haughty, the humble no longer oppress, then shall Ludd sheath his conquering sword. His grievances instantly meet with redress, then peace shall be quickly restored. Let the wise and the great lend their aid and advice, nor e'er their assistance withdraw, till full-fashioned work at the old-fashioned price is established by custom and law. Then the trade, when this arduous contest is o'er, shall raise in full splendor its head, and colting and cutting and squaring no more shall deprive honest workers of bread.
Et donc on a écouté The Triumph of General Ludd par le groupe Chumbawamba, qui parle du coup de Ned Ludd et des Luddites. Mais juste avant de parler des Luddites, je voulais rectifier ce que j'ai dit. C'est Fortunio Navarra qui a écrit un article sur les Diggers, le mouvement d'avant, et qui est cet article, il est publié dans un recueil de textes qui s'appelle L'incendie millénariste, écrit par le groupe Os Cangaceros. Et il n'y a pas de maison d'édition, je crois, mais c'est trouvable en librairie. Alors, les Luddites. Pour présenter les Luddites, j'ai trouvé un texte qui s'appelle Hommage aux Luddites, qui date de 2011, écrit par Christian Ferrer. Alors, le code sanglant. Depuis la plus haute antiquité, la corde a toujours constitué un châtiment ignominieux. En méditant sur sa familiarité structurelle personnelle avec l'échafaud, on saisit pourquoi cette peine symbolise le plus haut degré de dénigrement de la personne. N'y ont accédé que les délinquants de plus bas étage ou les réfractaires qui refusaient de ployer les genoux devaient courber la nuque de force. Quelques condamnés de l'époque moderne furent des martyrs. On se souvient à chaque 1er mai de Parsons, Spies et de leurs compagnons de potence. on en a parlé pour l'émission du 1er mai, c'est ceux qui se sont fait pendre, du coup, pour les émeutes qui ont eu lieu au High Market de Chicago. Mais peu se rappellent du nom de James Toll, qui fut, en 1816, le dernier « casseur de machines » auquel on rompit le cou. Il chuta dans la trappe en hurlant un hymne ludite, jusqu'à ce que ses cordes vocales ne forment qu'un seul nœud. Un cortège funèbre de 3000 personnes entonna la fin de l'hymne à sa place, a cappella. 3 ans auparavant, sur 14 échafauds alignés, s'étaient balancés tout autant de condamnés accusés de pratiquer le « ludisme », surnom d'un nouveau crime récemment entré dans les textes. À l'époque, existaient des dizaines de délits qualifiés faisant accéder leurs auteurs au royaume des cieux en passant par le nœud coulant. Nombreux étaient, en effet, les actes susceptibles de faire couper le fil de la vie. Assassinat, adultère, vol, blasphème, dissidence politique. En 1830, on pendit un enfant, à peine âgé de 9 ans, pour avoir dérobé quelques craies de couleur. Et cet état de fait dura jusqu'en 1870. Lorsqu'un décret humanitaire réajusta les crimes et délits en 4 catégories seulement. Les dures lois régnant alors sur les îles britanniques étaient appelées « The Bloody Code », le code sanglant. Mais le ludisme constitua un cas particulier de crime passible de la peine capitale. À partir de 1812 en Angleterre, abîmer une machine était susceptible de coûter la vie. En vérité, bien peu se souviennent des ludites ou des luds, appellation générique par laquelle ils se reconnaissaient entre eux. De temps en temps, quelques technocrates néolibéraux ou historiens progressistes exhibent des images d'Épinal de cette révolte populaire qui se rendit célèbre par la destruction de machines. Pour mieux la donner en exemple de politique absurde, de revendications réactionnaires, d'étapes artisanales de la conscience ouvrière, ou de révolte des ouvriers du textile prenant la forme d'une jacquerie paysanne. En fin de compte, rien ne se rapprochant de la vérité. Les uns et les autres se sont partagés à part égale la condamnation du mouvement ludite, motivé par les uns pour un intérêt bien compris et pour les autres par l'ignorance et les préjugés. L'image des ludites transmise à droite et à gauche est celle d'une simiesque et tumultueuse horde de pseudo-paysans enragés, frappant et détruisant ces fleurs de métal où viennent butiner les abeilles du progrès. En somme, le panneau indicateur signalant la limite de sortie de la dernière rébellion médiévale, ici de la paléontologie, là un bestiaire. Tout a commencé un certain 12 avril 1811. En pleine nuit, 350 hommes, femmes et enfants s'abattirent sur une filature industrielle du Nottinghamshire. On entend au début de la chanson qui parle du Nottinghamshire. Détruisant les grands métiers à tisser, à coups de masse, et mettant le feu aux installations. Cet événement deviendra rapidement du folklore populaire. La manufacture appartenait à William Cartwright, fabricant de fils de médiocre qualité, mais tout équipé de machines flambant neuves. En elle-même, l'usine était en ces années une nouvelle espèce de champignon poussant dans le paysage. Habituellement, le travail s'accomplissait dans le modeste atelier. 70 autres métiers à tisser industriels furent détruits cette même nuit, dans d'autres bourgades des environs. L'incendie, accompagné de son bouquet de masse, se déplaça ensuite vers les comtés voisins de Derby, Lancashire et York. Au cœur de cette Angleterre du début du 19e, point de gravité de la révolution industrielle. La traînée de poudre, partie du bourg d'Arnold, s'étendit de manière incontrôlée à tout le centre de l'Angleterre durant 2 années, poursuivie par une armée de 10 000 soldats, commandée par le général Thomas Maitland. 10 000 soldats ? Wellington en commandait bien moins lorsqu'il entra en campagne contre les armées napoléoniennes depuis le Portugal. Plus de soldats que contre la France. Cela s'explique. La France de Napoléon représentait une proche menace, mais le fantôme qui hantait la cour d'Angleterre, c'était les assemblées. Il ne s'était écoulé qu'un quart de siècle depuis l'an 1 de la Révolution. 10 000 soldats. Ce nombre est la preuve de l'immense difficulté à en finir avec les ludites. Sans doute parce que les membres du mouvement se confondaient avec la communauté même. Et cela dans les deux sens du terme. Tout en comptant sur l'aide de la population, ils étaient cette population. Maitland et ses soldats ont désespérément cherché Ned Ludd, leur chef, sans jamais le trouver. D'ailleurs, ils n'auraient jamais pu le trouver. Ned Ludd n'a jamais existé. Il ne fut qu'un nom inventé par les gens du cru pour désorienter Maitland. D'autres chefs, ayant signé des missives tour à tour moqueuses ou menaçantes, ainsi que des pétitions, se faisait appeler Mr. Pistol, Lady Ludd, Peter Flush, General Justice, No King, King Ludd ou Joe Firebrand, Joe l'incendiaire. L'un de ces mystérieux expéditeurs soulignait que le cachet de la poste provenait de la toute proche forêt de Sherwood. Une mythologie naissante venait de se superposer à une bien plus ancienne. Les hommes de Maitland se virent obligés de recourir à des mouchards, des agents provocateurs et des infiltrés. Une logistique des guerres extérieures jusqu'alors peu utilisée dans ce cas. Voilà bien une de ces réorganisations précoces de l'appareil policier, aujourd'hui connue comme travail de renseignement ou d'analyse. Si ces événements, qui ont tenu en échec la royauté et le parlement, sont passés à l'incinérateur de l'histoire, c'est justement parce que l'objectif des Luddites n'était pas politique mais social et moral. Ils ne cherchaient aucunement à prendre le pouvoir, mais à dévier la dynamique de l'industrialisation forcée. Vaine ambition. Il nous reste peu de témoignages, quelques chansons, quelques actes judiciaires, quelques rapports d'autorité militaire ou d'espions, des articles de journaux, 100 000 livres de pertes, une session parlementaire consacrée à cette question, et c'est à peu près tout. Il nous reste également quelques faits. 2 années d'une violente lutte sociale, 1100 machines détruites, une armée envoyée pour pacifier les régions insurgées, 5 ou 6 usines entièrement brûlées, 15 Luddites tués, 13 déportés en Australie, 14 autres pendus face aux murailles du château de York, et quelques soubresauts finaux. Pourquoi en sait-on si peu au sujet des idées luddites et de leur organisation ? C'est la fantasmagorie même de Ned Ludd qui l'explique. Ce fut un soulèvement sans leader, sans organisation centralisée, sans livre fondateur, mais pourvu d'un objectif chimérique, parler d'égal à égal avec les nouveaux maîtres de l'industrie. Toutefois, aucune révolte spontanée, aucune grève sauvage, aucun embrasement subi de violence populaire ne provient d'une génération spontanée. Il faut des années d'incubation, de générations transmettant un héritage de mauvais traitements, de populations entières pétrissant un savoir de la résistance. Parfois, ce sont des siècles entiers qui se déversent en un seul jour. C'est généralement l'ennemi qui fait jaillir l'étincelle qui va tout embraser. Jusqu'en 1810, ce furent la hausse des prix, la disparition des marchés à cause de la guerre, ainsi qu'un complot des nouveaux barons de l'industrie et des distributeurs de produits textiles de Londres, afin que ceux-ci n'achètent plus aux petits ateliers de village qui mirent le feu aux poudres. Par ailleurs, les réunions politiques et la liberté d'imprimer s'étaient vues supprimées au prétexte de la guerre contre Napoléon, et la loi interdisait aux tisserands d'émigrer, même s'ils mouraient de faim. L'Angleterre ne devait sous aucun prétexte divulguer son savoir-faire au monde. Les Luddites inventèrent une logistique de l'urgence qui comprenait tout un réseau de délégués ou de messagers parcourant les 4 comtés, des serments secrets de loyauté, des techniques de camouflage, des groupes de guetteurs, l'organisation de vols d'armes au sein des campements ennemis et de graffitis recouvrant les murs. De plus, ils se surpassèrent dans l'art antique de composer des chants de guerre qu'ils baptisaient hymnes. On peut encore écouter l'un des rares à avoir été recueilli. Elle possède un bras, et même si elle n'en a qu'un, il y a de la magie dans cet unique bras qui crucifie des millions de personnes. Détruisons le roi Vapeur, le sauvage Moloch. Ou cet autre. Et nuit après nuit, quand tout est tranquille et la lune cachée derrière la colline, nous avançons pour accomplir notre dessein avec la hache, la pique et le fusil. Les masses, des espèces d'énormes marteaux utilisés par les Luddites, venaient de la fabrique Enoch. Voilà pourquoi ils chantaient « Le grand Enoch conduira encore l'avant-garde, l'arête qui ose, l'arête qui peut, en avant chaque homme vaillant avec la hache, la pique et le fusil. » L'image même de la masse transcendera la brève épopée luddite. Dans l'imagerie anarchiste du début du XXe siècle, on retrouve fréquemment des Hercules syndicalistes armés d'une grande masse, sur le point d'aplatir non plus des machines, mais l'ensemble du système manufacturier. Tous ces blues de la technique ne doivent point nous faire perdre de vue que les autorités ne souhaitaient pas seulement écraser un soulèvement populaire, mais aussi empêcher l'organisation de sectes ouvrières, en un temps où seuls les industriels étaient unis. Carbonaristes conjurés, main noire de Cadiz, syndicalistes révolutionnaires, au siècle passé, la corde fut la conclusion de bien des tentatives séditieuses. Ouais, je vais continuer. Alors, Personne ne se rappelle ce qu'ont pu signifier en d'autres temps les mots prix équitable ou salaire juste. Alors comme aujourd'hui, une stratégie de renouvellement technologique accéléré et de réaménagement forcé des populations modifiait profondément les paysages. Rome a mis 7 siècles à se construire, là où Manchester et Liverpool n'ont eu besoin que de 20 ans. Par la suite, il faudrait 2 semaines pour implanter des enclaves en Afrique et en Asie. Personne n'était préparé à un tel changement d'échelle. La main invisible du marché assène un toucher tout différent de celui utilisé pour conclure un accord en tapant les mains au marché en plein air. L'arrivée autoritaire d'une nouvelle machinerie, l'expulsion plus ou moins forcée de villages entiers et leur concentration en cités ouvrières, l'extension du principe de profit sans limite, ainsi que l'éradication violente des coutumes, formèrent le bouillon de culture de la rébellion. Mais l'apparent lieu commun n'a pas existé. Les ludites ne rejetaient pas toute technologie, mais simplement celle impliquant un dommage moral à la vie quotidienne. Et la violence ne fut point orientée contre les machines en elles-mêmes. La preuve, ils ne détruisaient pas les leurs, qui étaient assez complexes. Mais contre les symboles de la nouvelle économie politique triomphante, concentration de zones industrielles urbaines, outils dont l'acquisition et la gestion par la communauté étaient impossibles. De plus, ils ne furent même pas les inventeurs de la technique qui fit leur renommée, casser des machines et ravager la maison du patron étaient des pratiques habituelles pour obtenir une augmentation salariale. Très vite, on verra que ces nouveaux outils étaient faits pour être manœuvrés par des travailleurs à la main inexperte et à la bourse vide. Les machines furent victimes de la violence, mais ce sont les industriels qui firent d'abord couler le sang. En fait, le plus préoccupant de l'activisme ludite fut les nouvelles modalités symboliques de la violence. De sorte qu'une des conséquences inévitables de cette rébellion fut une meilleure coordination entre les gros patrons et l'administration de l'État, un pacte qui tient encore solidement. Mais il nous interroge encore, ces ludites. Où se trouvent les limites? Est-il possible de s'opposer à l'introduction des technologies ou le processus de travail lorsque ceux-ci sont néfastes pour la communauté? Les conséquences sociales de la violence technique ont-elles une importance? Existe-t-il un espace où les opinions communautaires puissent se faire entendre? Peut-on remettre en cause les nouvelles technologies de la globalisation à partir d'un imaginaire moral plutôt que sur des considérations statistiques ou planificatrices? La nouveauté et la rapidité d'exécution représentent-elles des valeurs en tant que telles? Il n'échappera à personne l'actualité de ces thèmes qui font partie de notre vie. Les ludites ont lucidement perçu le début de l'ère de la technique. Voilà pourquoi ils ont mis sur la table le thème de la machinerie, qui est bien moins une question de technique que de politique et de morale. Les industriels et les propriétaires terriens accusaient les ludites de jacobinisme, tout comme aujourd'hui les technocrates accusent les critiques du système industriel de passéisme. Les Luds savaient bien qu'ils ne s'affrontaient pas uniquement à des fabricants de tissus rapaces, mais à la violence technique née de l'usine. Ils anticipèrent la modernité. Le 27 février 1812 fut une date mémorable dans l'histoire du capitalisme, mais aussi dans la chronique des batailles perdues. La violence des pauvres est à l'ordre du jour parlementaire. Habituellement, le sujet ne les concerne que lorsqu'il s'agit de limer les aspérités jugées excessives ou de réajuster les détails dans un rigoureux ensemble de mesures budgétaires. Ce jour-là, Lord Byron va venir siéger au Parlement pour la première et dernière fois. Depuis Guy Fawkes, qui en 1605 avait tenté de les faire sauter, personne n'a vu l'audace de venir à la Chambre des Lords dans l'intention de les contredire. Lors de cette session, on débat afin d'ajouter une incise à la loi sur la peine de mort, laquelle sera connue comme le Frame Breaking Act, c'est-à-dire l'application de la peine capitale pour avoir rompu une machine. À 100 contre 1, c'est le match des Lords contre les Ludes. À cette époque, Byron travaille intensément à son poème « Child of Harold », mais il prit du temps pour visiter les zones séditieuses afin de se forger sa propre idée de la situation. Il va tenter une objection admirable, mais inutile. Dans un extrait de son discours, alors qu'il qualifie les soldats d'armée d'occupation, il expose le rejet qu'il provoque au sein de la population. Ce ne sont que marches et contre-marches, de Nottingham à Bulwell, de Bulwell à Bamford, de Bamford à Mansfield. Lorsqu'enfin les détachements atteignent leur destination, avec tout l'orgueil, la pompe et la circonstance propre à une glorieuse guerre, ils n'arrivent que pour être les spectateurs de ce qui a été commis. pour témoigner de la fuite des responsables, pour assembler des morceaux de machines, puis pour regagner leur campement sous les railleries des vieilles et les quolibets des enfants. Ne trouve-t-on pas assez de sang dans votre code pénal pour qu'il soit nécessaire d'en répandre encore, qu'il monte jusqu'au ciel et aille témoigner contre vous ? D'ailleurs, comment ferez-vous respecter cette loi ? Érigerez-vous une potence dans chaque bourgade pour transformer chaque homme en épouvantail à moineaux ? Mais personne ne l'appuie. Byron publiera des journaux, des poèmes dans son journal, où il dit « Quelques sujets jugeront sans doute stupéfiants lorsque crie la famine et geint la misère, que la vie vaille moins que la marchandise, que le bruit d'une mécanique conduise à rompre une nuque. S'il en est ainsi, je prie pour qu'à ces mots, et qui pourrait rejeter un tel espoir, soit en premier brisé les squelettes des imbéciles. Je parle de ceux qui, lorsqu'on leur demande un remède, envoient la corde. » Peut-être Lord Byron ressentait-il un sincère sympathie pour les ludites, ou peut-être détestait-il l'avidité des commerçants. Quoi qu'il en soit, il ne réalisa pas à quel point cette nouvelle loi représenterait l'accouchement symbolique du capitalisme. Il passera le reste de sa vie sur le continent. Peu avant d'abandonner l'Angleterre, il publiera quelques vers, dont le final sera « Abat tous les rois, sauf le roi Lude ». En janvier 1813, on pendit George Mellor, un des rares capitaines ludites à avoir été arrêté. Quelques mois plus tard, ce sera le tour de 14 autres, ayant attaqué la propriété de Joseph Ratcliffe, un puissant industriel. Tant de pendus en un seul jour était un fait sans précédent. Cela constitue également un indice. Dans les villages d'origine de ces exécutés, le gouvernement avait offert de somptueuses récompenses pour toute information permettant de les impliquer. Toutefois, tous les villageois qui se présentèrent pour toucher ces primes donnèrent de fausses informations et utilisèrent l'argent pour payer la défense des accusés. Malgré cela, il était hors de question de mener un procès équitable, quelle que soit la faiblesse des preuves. Face aux murailles de York, les 14 condamnés marchèrent vers leur dernière heure en entonnant un hymne religieux. Lorsque la rébellion s'était étendue aux quatre coins de la région textile, la mosaïque des révoltés était devenue plus complexe. Démocrates, partisans de Tom Paine, religieux radicaux, dont certains étaient les héritiers de l'esprit des sectes millénaristes du siècle précédent, donc les leveleurs, les diggers, les renters, les divagateurs, etc. Organisateurs de syndicats naissants, les trade unions, ou des émigrants irlandais jacobites. C'est toujours comme ça. L'internationalisme est un phénomène ancien. Je vais passer un petit peu pour aller à la fin de cet article, parce que ça commence à être long. Alors, pourquoi s'attarder sur l'histoire de Ned Ludd et des casseurs de machines ? Leurs actes déchaînés ont sommairement survécu dans une brève note de bas de page du grand livre autobiographique de l'humanité. La consistance de leur histoire est anonyme, fort fragile et quasi absurde, ce qui peut parfois provoquer la curiosité, mais plus généralement le manque d'intérêt dû à ceux qui ne fondent pas de dynastie. On ne vit pas une époque où l'on peut s'attarder. Le bourgeois du 19e pouvait se payer le luxe de se distraire en lisant des feuilletons, alors que le public de ce siècle dispose à peine d'une paire d'heures pour parcourir les programmes de la télé. Nous vivons le temps de la tachycardie, comme le définit sarcastiquement Ezequiel Martinez Estrada. Remonter l'histoire à contre-courant, pour s'arrêter à l'œil des cyclones, est une tâche que seul un Orphée peut affronter. Lui qui achemina dans le monde des morts grâce à des mélodies qui rompaient les plus redoutables verrous. Nous autres, nous pouvons nous guider qu'à l'aide de leurs lueurs spectrales, échappées des livres anciens. Souffle agonisant trouvé dans les oripeaux linguistiques. Toute autre trace s'est déjà évanouie dans les éléments. Mais si ces mêmes éléments pouvaient s'articuler comme un langage, ils pourraient alors nous restituer la mémoire enfouie qui a circulé dans leur corps. À son tour, l'air restituerait la totalité des voix issues des bouches de tous les humains ayant vécu depuis la nuit des temps. De fait, il y a des millions de mots prononcés chaque minute. Ainsi, aucun ne serait perdu, même ceux des muets. Tous auraient été enregistrés dans la transparence atmosphérique, dont la relation avec l'entendement humain reste à découvrir. Quelque chose de similaire à ces doigts d'enfant, traçant de furtifs graffitis, ou des cœurs nerveux sur les fenêtres grâce à la buée de leur propre souffle. Si on pouvait traduire ces archives orales dans notre langage, alors toute chose dite ressusciterait en un clin d'œil pour composer la voix d'une rune majeure, autrement dit, la mémoire complète de l'histoire. Le vent a semé tant de voix, les transportant d'époque en époque. Toute oreille attentive peut retrouver ce qui en d'autres temps fut une tempête. Le vent est un excellent conducteur de mémoire, car ce qui fut dit l'a été tant par nécessité que d'une façon involontaire, ou bien prosaïquement, parce que parfois, nous nous sentons bien plus proches des morts que des vivants. Au milieu de tant de paroles prononcées, je ne peux ni ne veux cesser d'entendre ce que Ben, un vieux ludite, disait à des historiens locaux du comté de Derby, 50 ans après les événements. Je suis tellement déçu du fait que les gens d'aujourd'hui interprètent mal ce que nous, les ludites, avons fait. Mais qui alors, en pleine euphorie du progrès triomphant, pouvait prêter l'oreille aux vérités ludites? Il n'y avait, et c'est encore le cas, aucune audience possible pour les prophéties des vaincus. Les regrets de Ben constituèrent les derniers mots du mouvement ludite, un écho finissant de la plainte des pendus de 1813. Voilà, c'était des extraits d'un article de Christian Ferrer qui s'appelait « Hommage aux ludites ». Et juste une petite biblio pour en savoir plus sur les ludites. Il y a Edward P. Thompson qui a écrit « La formation de la classe ouvrière anglaise » et qui a consacré un chapitre entier aux ludites. On peut lire aussi aux éditions L'Insomniaque « La colère de Lude, la lutte des classes en Angleterre à l'aube de la révolution industrielle » écrit par Julius Vandal. Et aux éditions L'Échappée, La révolte ludite, briseur de machines à l'ère de l'industrialisation, écrit par Kirkpatrick Sale. Voilà. On passe à la chanson d'après ?